En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Le lundi 16 janvier 2006, Monsieur Jean Ménard a lu devant l'Académie des sciences morales et politiques sa communication intitulée « Port-Royal et la justice étant le thème choisi par le nouveau président pour l'année 2006, le nouveau président, Monsieur André Damien. Monsieur Ménard a consacré sa vie aux lettres et à la littérature française. Il a d'abord été enseignant, professeur à l'université Paris-Sorbonne de 1969 à 1990, où il fut directeur de l'UER de littérature française. Il est professeur émérite et professeur honoraire de Paris-Sorbonne depuis 1990. Jean Ménard a également effectué de nombreuses missions et conférences en Europe, au Maroc, en Afrique noire, au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande. Jean Ménard a été le président puis le président d'honneur de la Société des Amis de Port-Royal, président et président d'honneur de la Société d'études du XVIIe siècle et président de l'Association internationale des études françaises depuis 1995. C'est donc à juste titre qu'il est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de l'œuvre de Pascal, Pascal auquel il a d'ailleurs consacré plusieurs livres. D'abord le premier de ses livres, paru en 1951, Pascal, l'homme et l'œuvre. Puis Jean Ménard s'est attelé, on peut dire, à l'énorme travail que représente l'édition critique des textes de Pascal. D'abord, en 1962, l'édition critique des textes inédits de Pascal, puis en 64 et jusqu'en 1992, car c'était un travail qui a considérablement demandé de temps, et Monsieur Ménard a publié l'édition critique des œuvres complètes de Pascal, qui forme 4 tomes, puis il a publié Pascal et les Rohanaises en 2 volumes, un ouvrage sur Pascal en général en 1975, l'édition des pensées de Pascal, l'édition critique de l'abrégé de la vie de Jésus-Christ et l'édition critique de l'entretien de Monsieur de Sacy sur Épictète et Montaigne, toujours de Pascal. Il est donc normal que la communication de Monsieur Jean Ménard ait été intitulée « Port-Royal et la justice ». Nous rejoignons la salle des séances pour l'écouter.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier honoraire, Messieurs, chers confrères, mesdames, messieurs, c'est à une véritable question piège que je suis invité à répondre aujourd'hui. La justice en général est déjà l'un des sujets les plus vastes que l'on puisse imaginer. L'envisager dans le cas particulier de Port-Royal semble introduire une limite. C'est en fait un élargissement, car on ne peut bien situer la partie que dans le tout. À titre de complication supplémentaire, s'il est un point acquis aujourd'hui concernant Port-Royal, c'est l'extrême diversité des hommes et des femmes qui s'y sont rencontrés, avec, notamment sur le sujet qui nous intéresse, la position tout à fait inclassable de Pascal. Difficile, dans ces conditions, de chercher des principes d'unité et d'agencer les éléments d'un tableau ordonné. Rassurez-vous, j'essaierai quand même de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de distinguer quelques grands axes dans la complexité du mouvement d'ensemble. La première donnée à prendre en compte est, au fond, celle d'un Port-Royal qui reflète, tout en marquant son originalité et surtout en imprimant son impulsion propre, l'évolution du XVIIe siècle à partir d'une justice que j'appellerais humaniste, au double sens d'inspirée par l'Antiquité et de soucieux d'humanité, vers une justice que l'on peut désigner comme classique, c'est moi qui invente l'adjectif, avec tout ce que ce terme implique de rationalité. En somme, un mouvement à beaucoup d'égards continu, dont il s'agit surtout de saisir le point de départ et le point d'aboutissement. Entre les deux, Pascal, qui au premier abord s'insère assez mal dans le mouvement ainsi défini, et qui en définitive se révèle surtout porteur d'une pensée radicale, mais parfaitement équilibrée. Par respect pour la chronologie et par désir de souligner son importance, il sera présenté dans la partie centrale de l'exposé. La première pourrait s'intituler « Avocats et magistrats aux origines de Port-Royal ». Si l'on réduit Port-Royal à un certain augustinisme théologique, et notamment à une certaine conception de la grâce, issue de l'Augustinus de Jansénius, on ne peut situer sa naissance comme mouvement avant la publication de cet ouvrage en 1640, son auteur étant mort 2 ans plus tôt. Si l'on y cherche surtout les composants d'une spiritualité, on peut remonter à quelques années plus tôt, en 1635, lorsque la puissante personnalité de Saint-Cyran s'impose au monastère, alors passé de la vallée de Chevreuse au faubourg Saint-Jacques. Mais il ne peut faire de doute que l'entrée de Port-Royal dans l'histoire remonte à une date encore plus ancienne et très précisément connue, celle de la réforme du monastère, alors établi au Champ, sur l'initiative de sa toute jeune abbesse, Angélique Arnaud, en 1609. En somme, Port-Royal relève d'abord de la Renaissance catholique en Europe et en France au début du XVIIe siècle. Tout ce qui suivra ne sera que péripéties, souvent importantes, mais moins essentielles. En la mère Angélique, nous n'avons pas seulement à considérer son envergure personnelle, mais tout ce qu'elle doit à son milieu, et d'abord à sa famille. C'est une famille de gens de justice, parmi les plus éminents et les plus représentatifs de leur temps. Certes, ils n'ont pas soutenu l'abbesse dans sa volonté de réforme, mais ils se sont bien vite associés au mouvement qu'elle avait déclenché, en procédant tous à une véritable conversion spirituelle. Aussi, en dépit de cette divergence momentanée, l'abbesse et le monastère qu'elle conduisait ont-ils été profondément marqués par l'esprit dont ils étaient porteurs et dont beaucoup de traits concernent directement la justice. Le père de l'abbesse, Antoine Arnaud, il portait le même prénom que son dernier fils, le fameux théologien, était avocat et fier de l'être. Ses talents de juriste et d'orateur devaient le conduire jusqu'aux plus hautes fonctions, dont celle de procureur général de la reine Catherine de Médicis. Il avait épousé la fille d'un autre avocat célèbre, Simon Marion, qui devint avocat général au Parlement de Paris. Les deux familles n'en faisaient qu'une, d'autant qu'elles habitaient la même maison, près de l'église Saint-Merry. Beau-père et gendre partageaient en grande partie les mêmes activités, à la fin de leur vie auprès du roi Henri IV, leur protecteur, et d'abord comme conseillers privilégiés de deux grandes familles, les Montmorency et les Gonzague, deux familles catholiques modérées, comme ils l'étaient eux-mêmes, en cette époque de passion vive. Ils étaient d'ailleurs tous les deux animés d'un même esprit, largement répandu dans toute la robe, et qui tient surtout dans la haute idée qu'ils se faisaient de la justice, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient toujours fidèles à leurs principes. Plus précisément que dans leurs écrits, surtout formés de plaidoyers, cet esprit peut être saisi par le truchement d'œuvres littéraires un peu plus anciennes, mais issues de milieux proches, comme les écrivains de la Pléiade ou les familiers des académies royales du temps des Valois. Pour atteindre les racines de notre sujet, il faut donc remonter encore plus haut que je ne l'ai jusqu'ici suggéré, par le biais de la justice. Il est intéressant, par exemple, mais je vais aller vite, de se reporter à l'hymne de la justice, publié par Ronsard en 1555. Et mieux encore, à des discours au roi. Ils sont adressés à l'éphémère roi François II, mais le propos s'étend bien au-delà de sa personne. Discours composé par Du Bellay en 1559, peu avant sa mort, et mentionné expressément dans les plaidoyers de Marion, ce qui garantit la continuité. L'hymne de Ronsard fait de la justice une sorte de bien suprême, dans un univers qui, sans elle, demeure chaotique. Quant au discours de Du Bellay, je vais brièvement signaler les deux centres d'intérêt principaux. Le premier, c'est qu'il dénote des affinités étroites avec le futur chancelier Michel de l'Hôpital, l'un des hommes les plus respectés dans la magistrature du temps. Et d'autre part, qu'il propose toute une théorie politique de la France, dans laquelle les fameux trois états de la division sociale traditionnelle deviennent quatre. Et l'un d'eux est la justice. Il y a ce qu'il appelle le peuple, la noblesse, la justice et la religion. La distinction se fait autrement que dans la distinction traditionnelle. Mais elle est extrêmement intéressante. Elle est d'autant plus intéressante que la justice se trouve avoir une position autonome et privilégiée. C'est la justice qui fait l'équilibre de tout le reste. Et comme chacun sait, du Bellay, s'adressant à la France, l'appelle mère des arts, des armes et des lois. Eh bien, les lois, c'est le plus important. C'est ce qui permet au reste de subsister. Vous voyez sur quel soubassement s'édifie la théorie de la justice qui va inspirer l'école de Port-Royal. Alors, ce qu'il faut retenir aussi de toute cette théorie remarquablement présentée par du Bellay, c'est que la norme qui définit la justice est en même temps une origine. Ce n'est pas une création, c'est une origine. Une origine, et qu'il faut donc non pas inventer cette norme, mais la retrouver. Elle existe dans les origines de toute chose. De même, beaucoup de grands esprits qui ont adhéré à l'esprit de Port-Royal ont participé à son œuvre créatrice, ont partagé cette idée de la justice et l'ont exprimée en plein XVIIe siècle en des termes qui rappellent beaucoup ceux exemplaires de du Bellay. On trouve des termes très semblables dans une lettre de l'abbé de Saint-Cyran à un grand magistrat du temps, Jérôme Mignon, qui était disciple de Saint-Cyran, avocat général au Parlement de Paris. Et c'est le cas aussi du premier et du plus illustre des fameux solitaires, l'avocat Antoine Lemaître, issu des Arnauds. Grand humaniste, il s'intéressait vivement aussi aux antiquités françaises, y trouvant un trésor d'exemples et une référence fondamentale, car les humanistes étaient en même temps des spécialistes de l'ancienne France. Il est de ceux qui, autour du monastère, ont célébré Saint-Louis. Saint-Louis est un des grands personnages célébrés par le monastère de Port-Royal, le louant comme roi justicier et praticien d'une justice particulièrement pure, car l'important dans la justice, c'est qu'elle soit pure. C'est lui qui, sur le même sujet, a déterminé les très savantes recherches de Lenain de Thimon, qui ont été mises en forme par un disciple de Pascal, Filliot de la Chaise, à la fin du XVIIe siècle. Pour revenir à du Bellay, il est pourtant un point de ses discours qui n'est pas abordé, ou que ces discours n'abordent pas, sans doute parce qu'il n'était pas encore tout à fait d'actualité, et qui le deviendra durablement, surtout dans le milieu parlementaire et par l'intervention d'Antoine Arnauld, dans un procès tenu en 1594, c'est celui du jugement apporté sur l'œuvre des jésuites. L'ordre, comme l'on sait, avait été fondé en 1540, et avait aussitôt manifesté un extraordinaire dynamisme, réussissant à s'implanter dans toute l'Europe catholique, et se proposant d'étendre partout la gloire de l'Église romaine et l'autorité du pape. Ce qui soulevait des problèmes politiques concernant la vieille rivalité du sacerdoce et de l'Empire, mais aussi des problèmes juridiques, notamment celui fondamental du rapport entre l'ancien et le moderne. La justice repose-t-elle sur des normes primitives, auquel cas elle ne peut consister que dans un retour perpétuel à cet état ancien, en somme à un esprit de réforme? C'est ce qui découle de la tradition qui a inspiré Port-Royal. De son côté, le fondateur de la Compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, se flatte de ne pas vouloir réformer, mais former. Et il le prouve en multipliant les collèges. Autrement dit, il se veut moderne. La justice résulte d'une création dans le présent, et elle se doit de consolider l'Église constituée. Le conflit ne tarda pas à naître entre les citadelles de la tradition qu'étaient le Parlement et l'Université de Paris, et les collèges des jésuites, propagateurs d'un esprit nouveau. La crise de la justice qui se manifeste de cette façon se double d'une autre, bien illustrée aussi à la fin du XVIe siècle chez le théoricien politique Jean Bodin, comme dans les Essais de Montaigne. On se reportera surtout chez ce dernier au chapitre intitulé « De l'utile et de l'honnête » qui vise manifestement, sous le couvert d'une distinction empruntée à l'Antiquité, la pensée politique mais aussi juridique de Machiavel. L'honnête désigne ce qui est conforme à une justice pénétrée de morale. L'utile est ce qui va dans le sens de l'intérêt, soit par l'efficacité, soit par les avantages rendus possibles. La conciliation, plus ou moins boiteuse, entre la justice et l'intérêt est irrémédiablement appelée par un monde moderne, soucieux d'action et de progrès, et dont Machiavel prend fortement en compte la nouveauté. Elle est récusée par Montaigne, qui se veut fidèle à une exigence de justice intérieure, et qui sur ce point rejoint Port-Royal. Il est évident qu'à Port-Royal, la seule justice authentique est aussi celle de l'honnête, enrichie de considérations religieuses. On comprendra aisément que ces deux crises aient conjugué leurs effets, notamment dans les premières querelles qui ont attiré l'attention sur Port-Royal. Pour gagner du temps, je m'abstiendrai de traiter de la première, qui est celle du régicide. Elle est pourtant assez fameuse et extrêmement intéressante à une époque qui a vu assassiner Henri III et Henri IV. Bien. passons un peu plus loin dans le temps. Politique et juridique à la fois fut la grande querelle suscitée lorsque Richelieu eut pris le pouvoir en 1624 par l'action diplomatique et militaire du ministre, qui préféra conclure des alliances avec les princes protestants d'Allemagne à l'avantage de la puissance française, plutôt que de favoriser l'entente entre les nations catholiques favorables à l'Église catholique. On sait que Richelieu vit se dresser contre lui le Parti dévot, guidé par le cardinal de Bérulle, et dont l'esprit fut entretenu après sa mort par son ami Saint-Cyran. Il existe des affinités indiscutables entre Port-Royal et le Parti dévot. Elles se prolongèrent, pour des raisons où la justice avait grande part, jusqu'au temps de la Fronde, où Port-Royal commençait à manifester tout son éclat. Saint-Cyran avait alors disparu en 1643. Après être libéré de la prison de Vincennes, où Richelieu l'avait enfermé en 1638, première grande menace contre Port-Royal. Dans l'attitude du ministre, difficile à bien expliquer, entrait, outre des motifs purement politiques, des considérations théologiques. Un grand conflit, relatif à la pratique religieuse et au sacrement de pénitence, opposait alors les tenants de l'attrition et ceux de la contrition. Vous allez comprendre. Pour obtenir le pardon des péchés, fallait-il simplement un regret inspiré par la crainte de l'enfer, ce qui s'appelle l'attrition, ou fallait-il être inspiré par l'amour de Dieu, ce qui déclenche la contrition? Saint-Cyran, suivi bientôt par son disciple le jeune Antoine Arnaud et partout Port-Royal, prêchait la contrition. En face, les partisans de l'attrition formaient le grand nombre. Richelieu fut prodigieusement agacé par cette dispute. Il ne devinait que trop bien les arrière-pensées de ses adversaires, prompts à le taxer de machiavélisme, et qui voulaient prêter un caractère pécamineux à sa politique anti-espagnole. S'il tenait à l'attrition, ce n'est pas tellement qu'il fût inquiet pour son propre salut, mais parce qu'il devait tous les jours gagner à ses vues un Louis XIII terriblement scrupuleux. Condamner tant d'Espagnols à la mort, selon une formule de Pascal, vous voyez, qui est un Pascal qui est vraiment en plein dans l'actualité, condamnait tant d'Espagnols à la mort, pouvait-il être impliqué dans une juste déclaration de guerre? Poursuivons le raisonnement et généralisons-le, comme les pensées le suggèrent, dans des circonstances semblables, ce ne doit pas être, et je cite Pascal, un homme seul qui en juge, et encore intéressé, ce devrait être un tiers indifférent. Entendons, il faut expliquer, indifférent à l'intérêt et animé par la seule justice qui est divine, une justice qui est indépendante de l'intérêt, qui est désintéressée, ou qui est par essence désintéressée. En somme, l'attrition, commandée par un intérêt personnel, fût-il reporté à l'au-delà, ne pouvait faire le poids devant une contrition commandée par un amour de Dieu qui, en termes non théologiques, pourrait être dit amour de la justice. Je n'ai guère parlé jusqu'ici d'augustinisme, tout simplement parce que le concept n'avait pas encore à nous retenir d'une façon essentielle. On pouvait traiter la question sans s'en servir. Nous y sommes pourtant arrivés. La distinction de l'utile et de l'honnête, celle de l'intérêt et de la justice, entraînant celle de l'attrition et de la contrition, est l'un des fondements de cette doctrine, où les deux attitudes opposées reçoivent le nom d'amour de soi et d'amour de Dieu. L'amour de soi vicie tous les actes qui l'inspirent, seul est pur l'amour de Dieu. Le pessimisme tend désormais à l'emporter sur l'optimisme, qui nous est apparu très perceptible dans la réflexion humaniste sur la justice. Pourtant, nous sommes passés de l'un à l'autre par une série de transitions insensibles. Au terme, nous atteignons une sorte de sommet par l'union qui se réalise dans ce nouveau climat entre le juridique, le moral et le religieux. C'est le moment de s'arrêter à Pascal. Le double radicalisme de Pascal et son entre-deux, ce sera le titre de ma deuxième partie. Bien des pistes précédemment ouvertes auraient pu nous conduire à lui, Pascal, et notamment au provincial. Nous avons vu quelle matière offrait à la casuistique certains conflits d'ordre juridique. La situation à cet égard n'est guère différente que l'on se place sur le terrain de la justice ou sur celui de la morale. À l'inverse, beaucoup de cas traités dans les provinciales concernant par exemple le duel, le meurtre, le prêt à intérêt, présentaient une face juridique. Mais dans les pensées, Pascal déborde beaucoup plus complètement les situations particulières que prête à examiner l'étude des cas. C'est sous l'angle plus large qu'il y aborde le problème de la justice. Quoique son ouvrage se propose une fin particulière, la conversion de l'incroyant, il lie la réalisation de ce projet à une réévaluation totale de la situation de l'homme dans la société, dans le monde et dans l'histoire. C'est dans ce cadre qu'apparaît très amplement la justice. Mais sur ce sujet, la réflexion conduite dans les pensées présente plusieurs faces, plusieurs moments dialectiques qu'il importe de bien situer les uns par rapport aux autres. Car le point de vue change chaque fois, et Pascal ne conçoit la vérité que comme la résultante de plusieurs points de vue complémentaires. Ce mode complexe de composition n'est pas impossible, mais très difficile à reconstituer si l'on lit les pensées dans l'un ou l'autre des classements adoptés par les éditeurs d'autrefois. Il faut dire que les éditions plus modernes permettent de s'y repérer beaucoup plus aisément. Trois des étapes à définir dans l'itinéraire que Pascal s'efforce de décrire pour passer de la croyance à la foi, trois des étapes concernent directement le problème de la justice. Deux se rangent dans la partie initiale de l'ouvrage, partie préparatoire au raisonnement apologétique, susceptible d'être définie comme une sorte de critique de l'homme sans Dieu. C'est une critique de l'homme sans Dieu. La première occupe une large place dans le chapitre, j'emploie ce terme qui est très approximatif, intitulé « Misère ». La seconde constitue pratiquement le sujet unique d'un chapitre intitulé « Raison des effets ». La troisième, en revanche, appartient à la seconde grande partie de l'ouvrage, où se déroule proprement le raisonnement apologétique et où s'y définit peu à peu l'homme avec Dieu. Le chapitre correspondant est intitulé « Morale chrétienne », mais il s'agit, si l'on en juge par le texte, d'une morale éminemment sociale, incluant la justice. Ces trois chapitres fournissent très exactement trois points de vue sur le problème de la justice, en progression l'un par rapport à l'autre, sans qu'aucun n'annule les précédents. Le premier et le dernier chapitre, s'opposant aux deux extrémités de l'ensemble, caractérisent d'une façon significative le point de départ et le point d'arrivée. Ils présentent deux aspects de ce que j'ai appelé le radicalisme de Pascal. L'un négatif, l'autre positif. Le chapitre intermédiaire nous situe dans un entre-deux, dans un univers de relativité beaucoup plus complexe, mais épousant une réalité humaine elle-même complexe. Au radicalisme négatif correspondent certains des textes les plus fameux et les plus souvent cités de Pascal. Inspiré du scepticisme de Montaigne dans l'Apologie de Raymond Sebon, il dénie à l'homme toute capacité d'atteindre la justice. À preuve, alors que la constance et l'unité seraient seules garantes de vérité, la diversité infinie des lois selon les temps et les pays. Et je cite ce que chacun connaît, « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », le larcin, l'inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses. Certes, maint grand juriste oppose la permanence des lois fondamentales à l'irrégularité des coutumes. Mais où découvrir véritablement cette permanence? C'est là que la critique de Pascal s'attache à agir. À quelle raison se fier pour l'atteindre? Pascal ne voit pas de mots très sévères pour les frondeurs, ça c'est une application locale. Les frondeurs sont des optimistes en matière de politique et de morale, entre lesquels beaucoup de magistrats de ses amis et beaucoup de gens de Port-Royal, fidèles à l'optimisme juridique des générations antérieures. Quelle autorité reconnaître lois fondamentales qu'ils veulent restaurer? Ils déclarent vouloir restaurer les lois fondamentales du royaume. Eh bien, quelles sont-elles, ces lois? Voilà la question posée par Pascal. La sagesse commande simplement d'obéir aux coutumes établies, justifiées par leur seul établissement. Il existe en fait une double face dans ce raisonnement. D'une part, l'impossibilité de reconnaître aucune justice aux lois et aux coutumes. De l'autre, l'impossibilité pour l'homme de ne pas désirer la justice. Les lois établies ne subsistent que par l'aliment qu'elles fournissent à ce besoin. Et je cite, « Qui leur obéit parce qu'elles sont justes, obéit à la justice qu'il imagine, mais non pas à l'essence de la loi. » Oui, à la justice qu'il s'imagine dans la loi. Mais cette illusion est vitale. Ambivalence qui rend nécessaire le passage à d'autres points de vue. En définitive, celui qui vient d'être développé a servi d'exemple majeur à Pascal pour mettre en évidence deux caractères qu'il prête à l'homme sans Dieu, sa vanité, c'est-à-dire son vide, son inconsistance, le contentement qu'il trouve dans de simples apparences, et sa misère, c'est-à-dire la distance qui sépare en lui le désir de la réalité, l'idée de la justice de toute norme permettant de la définir. À cette sorte de vide absolu, constitutif du radicalisme négatif, résultant de cette absence de normes, ne peut correspondre pour l'homme avec Dieu, porteur d'un radicalisme positif, qu'une norme absolue. Une norme qui ne peut être le fruit de la raison, disqualifiée par ses limites et ses contradictions, mais que fournit la révélation divine, authentifiée par le raisonnement apologétique dont le chapitre morale chrétienne fournit comme la conclusion. La clé du chapitre est fournie par cette norme même, exprimée à une brièveté qui ne fait qu'accentuer la force. Deux lois suffisent pour régler toute la République chrétienne, mieux que toutes les lois politiques. Ces deux lois sont évidemment celles de l'amour de Dieu et du prochain, communes au décalogue et à l'enseignement du Christ, et propres à régir à la fois la société humaine et la société religieuse. On peut constater que si le Pascal proche de Montaigne précédemment découvert nous éloignait de la tradition humaniste, et même augustinienne, de la justice habituellement exprimée à Port-Royal, la nouvelle donnée apparue rétablit parfaitement le lien. La prééminence de l'amour de Dieu est affirmée de part et d'autre. En effet, avec le nouveau point de vue, une sorte de différence d'ordre au sens pascalien du terme s'est produite par rapport à l'étape inspirée par Montaigne. D'un point de vue à l'autre, les repères se sont modifiés. L'insertion de la pensée sur la justice s'est faite dans une autre totalité. Par là même, une lumière nouvelle a jailli. La critique de l'amour de soi et l'affirmation de l'amour de Dieu comme seul principe du bien et de la justice sont donc communes à toute la grande tradition de Port-Royal. Les deux amours sont mis en avant plus que jamais dans le chapitre morale chrétienne. Pour bien faire saisir le rapport entre ces deux composantes de l'être humain, Pascal se sert d'une grande comparaison, héritée à la fois de l'humanisme et du christianisme, unissant ainsi à son tour deux sources souvent jointes, c'est ses devanciers. Il s'agit d'une part de la fable des membres et de l'estomac, devenue de d'autre part, chez saint Paul, la grande idée du corps mystique du Christ. La société est ainsi conçue comme un corps où les relations d'équilibre qui fondent la justice sont représentées selon le modèle de l'union entre ce corps et ses membres, union profitable à l'un et aux autres. Une sorte de salut apparaît alors possible pour l'amour de soi, dès lors qu'il participe à une justice qui le rend désintéressé. En dépit de la rigueur des principes, une sorte de richesse humaine demeure donc accessible sur les sommets d'une justice radicalement chrétienne. Mais Pascal ne considère sans doute pas que la haute perfection requise pour cette norme, rendue encore plus difficile à atteindre par la condition pécheresse de l'homme, et impossible à faire suivre intégralement dans une société nécessairement diverse, puisse animer un corps de loi susceptible d'une application pratique, une justice constituée. Voilà pourquoi il a tenu à proposer encore un autre point de vue sur la justice, plus proche de la réalité et débouchant sur des règles concrètes. Ce point de vue relatif et pratique ne pouvait concerner la situation parfaite de l'homme avec Dieu. Il est donc exposé dans la perspective de l'homme sans Dieu, mais d'un homme qui, tout en faisant son deuil d'une justice parfaite, entend construire un ordre de la société reflétant au moins une image de la justice. C'est un fait que sans s'élever au-dessus du champ de la concupiscence, autre nom de l'amour de soi, l'homme peut procéder à une sorte de bricolage, grâce auquel, même si le bien absolu ne peut être atteint, des biens relatifs seront préservés. On pourrait dire aussi, en songeant à la morale provisoire que Descartes a voulu définir pour lui-même, en attendant l'achèvement d'une construction rationnelle totale, que Pascal, doutant de voir la cité de Dieu se constituer hors de l'autre monde, a voulu réfléchir pour le monde présent à une sorte de justice provisoire à l'échelle purement humaine. Le chapitre « Raison des effets » où se regroupent la plupart des fragments qui définissent cette justice relative ou provisoire ne peut donner lieu ici, faute de temps, qu'à des réflexions sommaires. La seule explication de son titre serait déjà longue. Je rechercherai le fil conducteur des chapitres dans le fragment suivant. La concupiscence et la force sont les sources de toutes nos actions. La concupiscence fait les volontaires, la force les involontaires. En somme, deux réalités pour le moins amorales entrent en jeu dans toutes nos actions et y déploient un rôle moteur, même dans celles qui sont soumises à la règle de la justice. Or, la justice seule ne peut exercer ce rôle moteur. Elle n'exerce ni attrait ni contrainte. Plus grave, elle peut être contredite. et comme la raison, elle est ployable à merci. Pour que la justice soit efficace, il faut donc qu'elle puise ailleurs une vertu qui lui manque. Pascal ne pousse pas l'analyse à propos de la concupiscence, mais il est clair que toute législation, en prévoyant des avantages et des peines, appelle l'intérêt personnel au secours de la justice. Beaucoup plus poussée et plus audacieuse est l'identification de la justice à la force, ou plus exactement la substitution de la seconde à la première par le moyen du langage. On appelle justice ce qu'il est force d'observer. Pascal fait donc bien plus que de reprendre le lieu commun qui veut que la justice soit forte. Il considère que la justice n'est qu'un montage à partir de la force. Il loue les législateurs qui l'ont pratiquée, les déclarant témoins de la grandeur de l'homme en ce qu'ils lui ont rendu, ne serait-ce qu'en image, une justice perdue. N'allons pas crier au scandale, n'allons pas chercher des précédents chez Machiavel ou Hobbes. Et voyons ce dont il est effectivement question, non pas de la violence qui nous ferait sortir totalement de la justice, mais d'une force autorisée, susceptible de mettre fin aux contestations interminables qui débouchent sur la guerre civile, le plus grand des maux, dit Pascal. La paix, ainsi maintenue, est l'une des valeurs neutres auxquelles conduit cet usage de la force. À l'appui de ces vues, l'un des exemples les plus clairs que propose Pascal est la règle de la majorité, qu'il appelle priorité, une règle que nous connaissons très bien aujourd'hui. Il est juste que la majorité l'emporte, mais sa justice résulte d'une convention et non de l'essence des choses, car le rapport de la majorité à la minorité n'est pas celui du plus juste au moins juste, mais du plus fort au moins fort. Nous sommes dans une situation de force, une force entendue au sens le plus large du terme. Autre force que l'on peut analyser en ce sens, celle de la coutume. La coutume est une force, parce qu'elle s'impose par la force de l'habitude, sur laquelle repose toute l'organisation sociale et encore une fois la paix. C'est parce que les coutumes sont grosso modo respectées que la paix règne. C'est à l'invention des législateurs et non au poids des armes que Pascal fait appel. Pour lui, même la justice imparfaite ne s'accommode pas du crime ou de la faute. Le législateur, même dénué de toute illusion sur la possibilité d'atteindre la vraie justice, n'est pas moins un homme parfaitement intègre. Il existe donc dans les pensées une théorie complète de la justice. Mais le mathématicien qui en est l'auteur ne l'a pas élaborée en s'aidant du pur raisonnement déductif, qui aboutit à des théorèmes successifs, emboîtés les uns dans les autres, selon une progression linéaire. Il a dessiné une figure dans l'espace, où les lieux et leurs dispositions n'ont pas moins d'importance que les réalités et les concepts qui les occupent, et dont les éléments peuvent s'agencer de façon multiple, menant à des conclusions contrastées, mais en remarquable cohérence. Dans le détail de sa pensée, il est certes solidaire de ses contemporains, mais il s'adresse aux uns et aux autres, selon les besoins et les moments de son discours, se flattant de les concilier à un degré supérieur et dans la plus totale lumière, comme il le fait sur d'autres sujets, dans l'entretien avec M. de Sacy, sur Épictète aux Montaignes, où nous voyons encore s'entrechoquer des pensées diverses, mais elles se concilient dans un état supérieur. Aussi bien, n'est-ce pas, dans la considération du détail que sa pensée a été le plus difficile à assimiler, mais dans la saisie de l'ensemble. Je suis en train de mesurer le temps qui me reste pour traiter la troisième partie que j'intitule « Pascal et le classicisme juridique ». Je crois que je me tiendrai à quelques remarques un peu décousues. Je dirais d'abord que la position de Pascal représente une sorte de forme extrême, absolue de Port-Royal. Et que cette forme, il a été le seul à la pratiquer, ou à peu près le seul. Il y aurait évidemment des auteurs mineurs à considérer. Mais dans la tradition qui est considérée comme représentant le plus authentiquement Port-Royal, et représentée normalement par deux théologiens, Arnaud et Nicole, Pascal effrayait un peu. Pascal était très admiré, mais il ne fallait surtout pas lui donner raison. Et à propos d'une des pensées les plus fortement inspirées par Montaigne, que l'on trouve dans les pensées, Arnaud a expliqué aux éditeurs qui avaient recueilli les papiers de Pascal et qui allaient les éditer, leur a dit « ça, il faut le supprimer ». Et effectivement, la pensée a été supprimée. Quant à Nicole, il a publié lui-même C'est un personnage curieux qui admirait beaucoup Pascal et qui en même temps se disait intérieurement, si c'était moi qui l'avais fait, ce serait beaucoup mieux. Oui, ce serait beaucoup mieux, mais n'empêche que ça aurait été beaucoup plus doux surtout, parce qu'il était, pour les formes douces. Et alors, Pascal a écrit des discours sur la condition des grands, qui sont très sceptiques aussi, très sceptiques, très montaigniens. Et ce texte, il a été publié par Nicole. Et on ne sait pas où il l'avait puisé, mais l'authenticité de ce texte est indiscutable. Mais en même temps qu'il publiait ce texte, Nicole le faisait suivre d'un traité de la grandeur, c'est-à-dire sur le même sujet. Et sur le même sujet, sans crier gare, il prenait les points de vue opposés. Pour m'en tenir à une citation, il y a une citation qui est des discours sur la condition des grands qui exprime très bien la position de Pascal. C'est une apostrophe à un grand. Il n'est pas nécessaire parce que vous êtes duc que je vous estime, mais il est nécessaire que je vous salue. Et voilà la situation telle que Pascal la voit. Donc, je respecte une norme qui est une norme sociale, mais pas une norme qui suppose un certain avis sur la personne. Alors, Nicole tient des propos qui sont destinés à contredire exactement cela. Il dit « Les grands ont une grandeur authentique. Les grands ne sont pas simplement grands occasionnellement ou fortuitement. » Ils sont grands parce que Dieu l'a voulu. Et même, il y a une théologie rationnelle. Il y a une philosophie rationnelle et une théologie rationnelle. Il fallait le faire à Port-Royal. On n'aurait pas imaginé cela 30 ans plus tôt. Donc, il y a une évolution vers un adoucissement. Adoucissement qui se produit grâce à deux facteurs philosophico-théologiques. D'une part, le prestige du thomisme, ou du moins le retour au thomisme, qui va supplanter peu à peu l'augustinisme, ou du moins fournir une nouvelle expression de l'augustinisme, et d'autre part, le cartésianisme. Et il y a un ouvrage tout à fait caractéristique de cette tendance, qui est « La logique de Port-Royal », œuvre d'Arnaud et de Nicole, publiée l'année même de la mort de Pascal, en 1662. Dans « La logique de Port-Royal », il aurait pu être beaucoup question de la justice, car la justice est une chose qui a bien besoin de logique. Mais il n'en est pas question. Tout simplement parce que le sujet n'était pas encore à l'ordre du jour. Il fallait les penser pour que le sujet passe à l'ordre du jour. Alors je voulais pour finir présenter un dernier auteur qui me paraît méconnu et qui est caractéristique de ce dernier Port-Royal, de ce Port-Royal tourné vers une des solutions d'adoucissement, c'est le jurisconsulte Doma, qui était aussi un avocat général au prédisial de Clermont-Ferrand en 1652. Et il a conservé cette fonction pendant très longtemps. Et en 1689, il a publié un ouvrage intitulé « Les lois civiles ». Ce traité des lois civiles, il a été l'objet de nombreuses thèses de droit, mais des thèses assez rapides. Et jamais il n'a fait l'objet d'une étude approfondie. Notamment, jamais il n'a été situé dans cette évolution que je mentionne. Et en particulier, je dirais qu'avec les lois civiles de Doma, nous commençons à Pascal, dont il reste des traces, notamment la distinction de l'esprit et du cœur, l'esprit et le cœur, grande distinction pascalienne, dont se sert aussi Doma. Mais on finit avec Montesquieu. Finit avec Montesquieu parce que Doma invente l'expression « esprit des lois ». L'esprit des lois, il emploie une dizaine de fois cette expression dans son livre, et il explique très bien ce que c'est l'esprit des lois. L'esprit des lois, c'est ce qu'il y a dans chaque loi de la justice universelle. C'est très beau comme définition. Très beau de finir. C'est-à-dire qu'une loi n'est pas forcément juste, mais il y a une étincelle de justice universelle. Et par là, dans la présentation que je faisais de Doma, j'insistais sur le fait qu'il est très bon juriste, mais très mauvais théologien. C'est-à-dire que ses positions théologiques sont inconsistantes. Et notamment, il y a chez lui, et je viens de prononcer le nom de Montesquieu, je vais en prononcer un autre, qui sera encore plus scandaleux, il y a chez lui une sorte de réhabilitation de l'amour propre. C'est-à-dire une réhabilitation théologique de l'amour propre. C'est là que je dis qu'il n'est pas un théologien très sûr. Et l'amour de soi, ça permet à la société d'exister. Donc c'est bon, donc c'est divin. C'est divin, alors que c'est la source du mal. Mais en même temps, il dit que l'amour propre, c'est le poison de la société. Il a cette expression exacte. Il se contredit lui-même sans s'en douter. Mais il n'empêche que il a fait une très belle construction juridique, et c'est la première fois que l'on voit le droit exposé d'une manière, je dirais, cartésienne, en commençant par le simple et en finissant par le complexe. Et il y a aussi chez lui une autre idée, qui est que la justice est quelque chose de merveilleux, mais que les lois sont quelque chose d'infâme. En somme, la justice est toute enfermée dans son principe, dans sa valeur, dans ce qui la constitue comme valeur, mais que les lois sont des compromis où l'intérêt joue le rôle principal, où la concupiscence, en somme, joue le rôle principal. Alors je vais quand même vous donner ma conclusion. Il me semble que le problème de la justice à Port-Royal, comme sans doute en beaucoup d'autres écoles, s'y présente toujours, quoiqu'avec des variantes, sous deux aspects. Celui de la justice proprement dite, valeur suprême et indiscutée, et celui des lois qui sont censées la garantir. La première est simple et facile à définir et se résume en deux règles complémentaires, rendre à chacun le même et à chacun le sien. Mais elle est abstraite et se représente mieux comme une vertu ou comme un idéal que comme un objectif pratique. Les lois, au contraire, se dissolvent en une multitude de directives propices à la chicane et qu'il est aisé de faire s'entrechoquer pour les détruire les unes par les autres. Ce qui pourrait avoir l'effet bénéfique de laisser la place libre à la pure justice, si seulement les lois pouvaient se détruire par elles-mêmes. Ça permettrait au moins à la justice d'apparaître dans le visage du juge, le juge qui est le juste par excellence. Et je suppose que laisser la place libre à la pure justice au détriment des lois, et ça, c'est une situation rêvée par plus d'un jurisconsulte. Mais ce qui risque surtout de se produire, c'est l'ensevelissement de la justice dans le sable des intérêts, avec la complicité de la raison. Un ami de Port-Royal disait à peu près que si la justice avait partie liée avec la grâce, les lois avaient poussé dans le terreau de la concupiscence. Mais la situation est plus complexe. Comme on a pu le remarquer, on constate presque constamment à Port-Royal une reconnaissance de la justice comme valeur absolue. Sur ce point, il n'y a pas d'hésitation. Et l'attitude est constante. L'attitude minimale sur ce point est celle de Pascal, qui découvre en l'homme, même corrompu, une aspiration fondamentale à la justice, qui est simplement incapable de se polariser sur une vraie justice. Demeurée malheureusement vide, quoiqu'elle soit preuve de grandeur. Mais le plus souvent, même ce commencement de justice prend des contours plus précis, et il peut aller jusqu'à une sorte d'enthousiasme. Il y a, chez les humanistes, un enthousiasme de la justice, chez Ronsard, par exemple, et chez Cézanne Arnaud, l'Arnaud le père, chez le maître. Alors, cette attitude suppose une limite ou diverses limites possibles à la corruption de l'homme par le péché originel, une part intègre de la nature. Même dans le plus pessimiste de tous, qui est Pascal, il y a quand même cette petite ouverture à un au-delà. C'est là que la diversité apparaît au sein de la même école. En face, sur la question des lois, on retrouve une diversité comparable. Quoique le pessimisme soit davantage de règles, l'optimisme est général sur l'idée de justice, mais il est moins universel sur la question des lois. Il y a une méfiance très augustinienne de la raison, créatrice de ces lois, une raison perturbée par la concupiscence, une concupiscence déguisée en cette folle du logis qu'est l'imagination, l'imagination qui n'est qu'une perversion de la raison. Mais dans le Port-Royal de l'époque classique, une sorte d'humanisme, où les débuts du monastère avaient pour une large part pris naissance, est revenu sur les devants de la scène, amenant sans doute des perspectives moins grandioses, mais aussi un paysage moins abrupt. Je vous remercie.